Passionnant de marcher avec des
Vous
vous rappelez sans doute notre slogan qui est sur le poster qui est là-bas, atteindre, former, envoyer. On aimerait annoncer l'évangile, mais pas dans le but simplement de faire des convertis, dans le but de former, d'équiper les gens qui annoncent, qui propagent, qui font grandir le royaume de Dieu. Et le récit de ce matin, je trouve, est un bon exemple de cela. La manière dont Dieu appelle quelqu'un, non pas juste pour l'appeler, mais pour l'envoyer. C'est l'histoire d'un notable un peu haineux qui tombe par terre sur une route près de Damas, dans les Bibles pour enfants, on le monte sur un cheval et qui tombe d'un cheval. Dans nos Bibles, on ne nous dit pas s'il était à cheval ou à pied, on nous dit simplement qu'il est tombé. Un texte que vous avez sans doute, que vous connaissez sans doute, de la conversion de l'apôtre Paul, je constate que c'est rare qu'on prêche sur ce texte. C'est aussi parce que c'est la suite du livre des Actes. Nous avons trois textes dans la Bible qui racontent la conversion de l'apôtre Paul. Acte 9, qui va nous occuper aujourd'hui, et puis deux autres épisodes où on voit comment Paul raconte sa conversion. C'est dans Acte 22 et Acte 26. Ces trois textes précieux, d'abord pour connaître l'apôtre Paul, mais pour voir comment Dieu a agi dans sa vie. Et pour voir aussi comment nous, à notre tour, on pouvait témoigner de notre foi. Alors, vous invite d'abord à lire ce passage. On va lire presque l'entier du chapitre 9 du livre des Actes, pas complètement. Je vous invite à ouvrir le livre dans Acte 9. On parle de Saul, parce qu'à l'époque, la plupart des Hébreux avaient deux prénoms. Un prénom hébreu, Saul, le nom du premier roi d'Israël, et puis un deuxième prénom, un prénom grec, parce que les Grecs ont de la peine à prononcer l'hébreu. C'est pour ça qu'il s'appelle Saul Paul. C'est le nom, et quand il est avec les Hébreux, on l'appelle Saul, et quand il est avec les Grecs, on l'appelle Paul. C'est comme ça. Beaucoup d'autres personnages de la Bible, en tout cas dans le Nouveau Testament, ont à la fois un nom hébreu et un nom grec. Saul, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville, quand soudain il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ? » demanda-t-il. La voix reprit « Je suis, moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Il resta aveugle pendant trois jours et ne mangea ni ne but. Or à Damas, vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit « Ananias !»« Oui, Seigneur » répondit-il. Et le Seigneur lui dit « Lève-toi et va dans la rue qu'on appelle la rue droite et dans la maison de Judas. » Demande à voir un nommé Saul, originaire de Tarse, car il prie. Et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Mais Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme. De plusieurs côtés, on m'a dit tout le mal qu'il a fait aux membres de ton peuple saint à Jérusalem. De plus, il est venu ici, muni de pouvoir, que lui ont accordé des chefs et des prêtres, pour arrêter tous ceux qui te prient. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux peuples étrangers et à leurs rois, ainsi qu'aux Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. » Ananias partit donc, et arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois, rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient des yeux de Saul et il vit de nouveau. Alors il se leva et fut baptisé, puis il mangea et reprit des forces. Saul passa quelques jours parmi les disciples de Damas, et dans les synagogues, il se mit tout de suite à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Ses auditeurs n'en revenaient pas, tous disaient, « Voyons, n'est-ce pas lui qui s'acharnait à Jérusalem contre ceux qui, dans leur prière, invoquent ce nom-là? N'est-il pas venu ici exprès pour les arrêter et les ramener au chef des prêtres ?» Mais Saul s'affermissait de jour en jour dans la foi, et les Juifs qui habitaient à Damas ne savaient plus que dire, car il leur démontrait que Jésus est le Messie. On va s'arrêter là, dans la lecture. Il y a sans doute beaucoup de choses à commenter sur ce passage important de la Bible. Voilà, j'ai oublié de vous faire ça dans le document d'introduction. Vous rappelez le texte un peu d'ouverture du livre des Actes, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Le livre des Actes nous détaille de quelle manière le Saint-Esprit agit sur les croyants pour en faire des témoins. Jusqu'ici, on nous a plutôt décrit ce qui se passait à Jérusalem, ensuite on nous a décrit ce qui se passait en Judée et en Samarie. On commence à nous montrer ce qui se passe pour le bout de la terre. Alors, le texte qu'on a vu la dernière fois nous parle du bout de la terre d'une manière un peu étrange. Ce sont les étrangers de passage chez nous. C'est aussi une manière d'annoncer l'évangile jusqu'au bout de la terre. L'épisode d'aujourd'hui nous parle aussi un petit peu de ça. C'est la conversion d'un juif, d'un extrémiste. Compris les gens les plus improbables. On nous raconte la conversion de l'apôtre Paul dans le début de la conversion des nations, parce que, bien sûr, Paul va être envoyé parmi les nations, surtout en Grèce et en Turquie. Voilà. Alors, il me semble qu'il y a quatre grands axes ou quatre grandes leçons, en tout cas dans ce passage d'acte 9. Alors, la première que je vous propose, que nous sommes appelés à prier pour nos ennemis. Je vous ai ici ce verset où Jésus dit à ses disciples, « Moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Je crois que trop souvent, nous doutons de l'efficacité de nos prières. On prie un peu, mais si on ne voit rien se passer, on finit par se résigner. Dieu nous appelle à prier avec persévérance. J'espère que vous n'avez pas trop d'ennemis, mais c'est vrai qu'il y a bien d'autres sujets dans notre vie. Nous sommes appelés à prier avec persévérance et avec confiance. On voit ici qu'Ananias a certainement prié. Il a prié quand il a appris que l'apôtre Paul allait venir à Damas. Mais on voit qu'il ne croit pas que le Seigneur peut changer Paul. Pourtant, il avait prié. Sans doute, dès que les chrétiens de Damas ont appris que des émissaires de Jérusalem venaient pour les arrêter, ils ont dû se mettre à prier. Alors, on ne sait pas ce qu'ils ont prié. Sans doute, ils ont plutôt prié que le Seigneur les protège. Et on voit qu'ils ont beaucoup de peine à croire que, en fait, oui, le Seigneur répond à leur prière. Et on a une situation identique quelques versets plus loin, à partir du verset 26, où Paul rentre ou revient à Jérusalem, et personne ne croit qu'il s'est converti. Et il a beaucoup de peine à rencontrer les chrétiens, qui ont prié pour lui, mais qui ne croient pas qu'il s'est passé quelque chose. Priez en croyant que Dieu va me changer et va changer les autres. Je peux aussi prier pour me plaindre, et prier pour que Dieu me fasse justice, il semble ici qu'on parle de prier pour que Dieu me change et que Dieu change quelqu'un et l'incorpore à la famille de Dieu et qu'il devienne véritablement un frère ou une sœur pour moi. C'est assez fort ce que dit Ananias quand il le rencontre. Il appelle tout de suite Saul, mon frère. Qu'est-ce que je prie? Pour que même mes ennemis deviennent mon frère, ma sœur. D'ailleurs, en passant, je trouve quand même assez intéressant. Quand Dieu intervient, nous avons tous tendance à interpréter ce que Dieu fait. Et il faut parfois faire un petit peu attention. J'essaie de m'expliquer comme ça. Imaginez Ananias. Que veut Ananias? Surtout que Paul ne le trouve pas. D'accord. C'est finalement ça qu'il veut. Qu'est-ce qu'il apprend quand il prie? Dieu lui dit, écoute, je t'ai dénoncé à Paul. C'est ça, en gros, hein? Dieu lui apprend qu'il est allé dire à Paul, écoute, il y a un gars qui s'appelle Ananias, qui est chrétien. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il a interprété, notre ami Ananias? Je crains que sa première réaction, c'est qu'est-ce que je fais de ce Dieu-là qui me dénonce à mes ennemis? Vous comprenez? Et il lui faudra un peu de temps pour comprendre qu'en fait, c'est complètement autre chose qui se passe. Dieu l'appelle à contribuer à ce que Paul devienne, l'apôtre Paul, hein, un personnage très important pour la fondation de l'Église. Incroyable, hein? Je ne sais pas comment vous interprétez ce que Dieu a fait pour vous en 2017. Ce qui est certain, c'est que Dieu a agi pour que nous puissions contribuer à son œuvre, et quelque part, nous donner des occasions d'être fiers, fiers d'avoir contribué avec le Seigneur à faire des choses importantes pour son royaume. Et parfois, nous, on ne voit pas ça. On voit plutôt, mais qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie? Dieu, il fait des choses pour que nous soyons fiers de contribuer avec lui. Ce passage nous appelle à croire dans l'efficacité de nos prières et nous appelle aussi à croire dans l'efficacité de notre témoignage. Finalement, qu'est-ce qui a fait que Paul ou Saul se convertissent? Certainement beaucoup de choses. Bien sûr, l'intervention de Jésus-Christ directement, mais aussi le fait que beaucoup de chrétiens lui ont témoigné. Notamment la prédication d'Étienne. Et sans doute de toutes sortes d'autres chrétiens, parce que quand Paul les a arrêtés et les a amenés devant le grand conseil, il les a entendus témoigner. Et Paul s'est en partie converti grâce à leur témoignage à tous ceux-là. Et d'ailleurs, en passant, dans la suite, il va faire comme eux. Il va prendre modèle sur tous ces chrétiens-là. Il va apprendre à témoigner quand il est en procès. Ça, il l'a appris par tous les gens qu'il a arrêtés avant. Vous voyez comme le témoignage des chrétiens ont conduit Paul non seulement à se convertir, mais l'ont aussi formé pour ce que sera son ministère. Oui. Alors après, à vue humaine, on dit les témoignages, ils n'ont servi à rien. Quand Étienne a témoigné, a prêché, Paul, manifestement, il était surtout furieux, quoi. Pourtant, le témoignage a fait un chemin au cœur de Paul. Ça a pris du temps, mais ça a eu de l'effet dans sa vie. Non seulement pour qu'il se convertisse, mais pour l'équiper. Pour son ministère. Nous sommes appelés à prier pour nos ennemis et à leur témoigner lorsque l'occasion se présente. Les chrétiens n'ont pas cherché à assassiner l'apôtre Paul, ils ont prié et ils ont témoigné. Ils ont répondu avec calme, avec vérité. Alors, deux petites notes encore à dire. On voit ici dans l'exemple des chrétiens, qu'ils ont témoigné dans des procès où ils étaient mis en cause pour leur foi. Je ne pense pas qu'il soit souhaitable de témoigner dans un procès où je suis à cause de mes propres fautes. Vous comprenez que ce n'est pas tout à fait pareil quand même. Lorsque nous sommes accusés pour nos propres fautes, il faut sans doute mieux reconnaître nos torts, et c'est aussi une forme de témoignage. La deuxième note, c'est qu'en France, généralement, les cheminements de conversion sont très longs. Il est donc important, quand on témoigne à un ami, de quelque part déjà commencer à le former en tant que chrétien, même s'il n'est pas encore. Vous voyez ? Parfois, on a cette idée, d'abord qu'il se convertisse, puis après, on va commencer à lui apprendre les bases de la foi. Le problème en France, c'est que la conversion prend tellement de temps qu'il vaut mieux commencer plus tôt. C'est quelque part ce qu'ils font avec l'apôtre Paul ici. Avant même qu'il soit converti, alors qu'il est encore un adversaire de l'Église, on lui apprend déjà comment témoigner, par son propre témoignage. Notre but n'est pas seulement de convertir, mais c'est aussi d'envoyer. C'est ce que nous avons à avoir en tête dès le début. Deuxième remarque. Le deuxième point, c'est qu'on doit se méfier de nos angles morts. Pour ceux qui conduisent, vous savez très bien ce que c'est les angles morts. Nous avons tous des angles aveugles. On doit s'en méfier. C'est une des leçons importantes dans ce passage de la conversion de l'apôtre Paul, où on parle de la question de l'aveuglement. Paul a dû réaliser qu'il était aveugle. Le péché nous touche dans notre capacité à faire le bien, mais aussi dans notre capacité à voir la vérité, la réalité. On pense faire bien et parfois on fait mal. Vous connaissez ce proverbe français qui dit « L'enfer est pavé de bonnes intentions ». Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ces moments où nos yeux s'ouvrent et on découvre brusquement qu'on pensait faire bien et qu'on a fait exactement l'inverse. Je ne sais pas si vous vous rappelez des moments comme ça où on a l'impression qu'on prend une véritable claque dans le visage. Passage dans la Bible, notamment évidemment les enseignements de Jésus, nous parlent du risque d'être aveuglé. En particulier ici l'aveuglement des pharisiens, des légalistes. C'est sans doute ce passage dans Matthieu 7. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Paul vit directement cette réalité de l'aveuglement de manière physique, mais bien sûr, comprend que le vrai aveuglement est spirituel. Imaginez ça. Il est persuadé d'avoir agi pour la gloire de Dieu et il est en train de réaliser qu'il a agi contre Dieu, qu'il a combattu Dieu. Il pensait que Dieu approuvait son zèle pour purifier le peuple d'Israël et s'il se rend compte qu'il est en train de persécuter le Messie. Imaginez la carte qu'il a fait. Paul pensait que les chrétiens étaient des gens bornés, étroits, aveugles. Sans doute pour lui, les chrétiens sont des hérétiques et des menteurs. Il ne croit pas que Jésus est vivant et certainement pas que Jésus est Dieu. S'il persécute les chrétiens, c'est certainement parce qu'il pense que c'est des idolâtres, des gens qui rendent un culte à un homme, en plus un homme mort. Bon, des gens pas très recommandables, quoi. Il découvre que c'est juste l'inverse. Que les chrétiens, c'est ceux qui ont réellement compris. Et que c'est lui qui est étroit au Dieu vivant et qui s'est éloigné de Dieu. Notre prière, ce n'est pas forcément que Dieu se révèle à nous, mais quelque part, comme pour l'apôtre Paul, que Dieu enlève des écailles de nos yeux pour qu'on voit la réalité, y compris bien sûr la réalité de Dieu. Pas forcément besoin d'une révélation, mais besoin d'être un peu moins aveugle. Un ami qui me disait souvent, les chrétiens ne sont pas des illuminés, mais des éclairés. Oui. On a plein de gens autour de nous qui sont aveugles et qui nous traitent comme des illuminés un peu bizarres. Non, mais des éclairés. Moi, je l'espère qu'on est. Parce que ça, j'aimerais juste rappeler un proverbe, je crois que c'est un proverbe anglais. C'est pas un proverbe biblique, mais je crois quand même qu'il pourrait être dans la Bible. Il recouvre pas mal de passages. C'est un proverbe qui dit ceci. La raison justifie ce que le cœur désire. Autrement dit, quand nous sommes convaincus de quelque chose, on va trouver toutes sortes de raisons pour justifier qu'on a raison. C'est ce qu'a fait Paul. Il était convaincu que les chrétiens étaient des dangereux sectaires, et il a certainement trouvé toute une foule d'arguments, y compris des arguments bibliques, pour justifier qu'il avait raison. Méfions-nous de notre tendance à renforcer notre propre aveuglement. Soit parce qu'on cherche des arguments qui nous aident, qui nous donnent du sens, soit parce qu'on s'associe en priorité à des gens qui sont d'accord avec nous, qui justifient notre point de vue. Qui vont en quelque sorte accentuer notre aveuglement. Nous avons tous tendance, et ça c'est là, c'est le fait du péché, à justifier notre point de vue plutôt que demander au Seigneur qu'il enlève les écailles de nos yeux. J'ai trouvé un petit outil, j'espère que ça passe sur les yeux. C'est ce qu'on appelle les échelles d'inférence. Quand il se passe quelque chose, quand on observe quelque chose, on va sélectionner. On regarde en fait pas tout ce qui se passe. On sélectionne une partie. Ensuite, on va donner du sens. Ensuite, on va se forger des présupposés, ou du moins, on va utiliser nos présupposés pour construire des convictions. Et ensuite, on va décider ce qu'on doit faire. Vous voyez bien que le problème, c'est un peu la deuxième ligne. La deuxième ou la troisième. On commence à sélectionner les choses dans les choses que l'on a vues, à leur donner du sens. Il faut parfois se poser la question, est-ce que je les fais de manière convenable, de manière juste, de manière conforme à ce que Dieu, à la manière dont Dieu lui voit la situation. Donc ce que j'ai dit, c'est que parfois, nous avons cette tendance-là, à essayer de confirmer ce que nous pensons déjà en fait. On va justifier notre interprétation en sélectionnant dans les événements ce qui nous arrange le plus. Les autres, on les met gentiment de côté. Et puis, évidemment, on nous appelle plutôt à faire autre chose, c'est la prochaine diapo, c'est à tester. Est-ce que la conviction, est-ce que la manière dont j'ai compris, interprété ce qui s'est passé, est juste? Il faut parfois vérifier mes présuppositions et revenir à essayer de voir tout ce qui s'est réellement passé. Pourquoi? Tout ce que sont vraiment les chrétiens. Pas juste les choses qui le conforment dans son idée, les chrétiens sont des gens des nombreux secteurs. C'est juste un petit outil pour nous aider à être parfois un tout petit peu aveugle. Nous avons tous cette tendance à être aveugle et à renforcer notre aveuglement. Dans le livre des Actes, on présente souvent l'obstacle à la foi en Jésus comme le fait d'être aveugle. C'est-à-dire qu'on retrouvera plusieurs fois cette notion. Dans d'autres livres bibliques, on parle plutôt du péché moral comme un obstacle. Par exemple, Ésaïe 59, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Quel est notre obstacle pour grandir dans la foi? Parfois, c'est effectivement le péché. On a fait des mauvais choix. Parfois, notre problème, c'est qu'on est aveugle et qu'on a besoin que le Seigneur ouvre nos yeux. Si on regarde la manière dont on a évangélisé en France, on l'a souvent fait sur l'axe du péché. Le problème, c'est que la plupart de nos amis français ne se sentent pas du péché, en fait. Si quelqu'un a un problème, c'est Dieu. Enfin, eux, ils n'en ont pas vraiment, en fait. J'ai déjà remarqué ça avec nos amis. Ils ne sont pas du péché, en fait. C'est pour ça que quand on a évangélisé en parlant surtout du pardon des péchés, on a surtout touché des anciens catholiques, ou des catholiques un peu, non. Pas trop les autres. Sans doute, on devrait mettre beaucoup plus l'accent sur le fait d'être aveugle et qu'on a besoin que Dieu nous ouvre les yeux. Parce que ça, la plupart des gens que j'ai rencontrés sont bien conscients de ça. Ils sont aveugles à plein de choses. Il faut leur apprendre que Dieu peut leur ouvrir les yeux. Alors, aussi leur ouvrir les yeux sur leur péché, on est bien d'accord, hein? Mais parfois, peut-être qu'il vaut mieux évangéliser en disant le Seigneur va t'ouvrir les yeux sur la réalité. Nous sommes tous conscients que nous avons des angles morts, nous avons besoin de l'aide. Nous, on sait qu'on a besoin d'aide du Saint-Esprit, nous n'en avons pas forcément, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit pour au moins diminuer nos angles morts. Une autre leçon importante de ce passage, c'est que l'Église est vraiment le corps du Christ. Jésus dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu alors que ce sont des chrétiens qui souffrent. Jésus est mort et ressuscité, il est au ciel, il est dans sa gloire, mais il n'est pas loin de nous. Il est attaché, il s'est soigneusement attaché aux chrétiens, il souffre quand il souffre. Je trouve très fort cette expression, Jésus est persécuté lorsqu'on persécute les chrétiens. C'est en partie aussi comme ça, hein. On prie pour nos frères persécutés parce qu'on sait que nous sommes ensemble corps de Christ. Paul va être très marqué par cette réalité-là. D'abord parce qu'il va comprendre que Jésus est Paul, quand il a l'exhortation à nous aimer les uns les autres, mais aussi à chacun faire un effort pour marcher dans la sainteté, pour ne pas salir le corps du Christ. Il va beaucoup travailler à l'unité des chrétiens, pour lui, ça c'est surtout entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens qui n'étaient pas d'origine juive, en disant, mais on est ensemble, le corps du Christ. Les autres chrétiens font partie de nous. Je ne veux pas faire comme si, comme si on n'était pas liés l'un à l'autre. Je ne vais pas aller plus loin que ça, parce qu'on a plusieurs fois parlé de ça, et puis, alors, une quatrième leçon, c'est que nous sommes appelés à servir. Nous sommes appelés pour servir. Lorsque le Seigneur appelle Paul à se convertir, il l'appelle en même temps au ministère. Atteint, formé et envoyé. Paul se convertit et tout de suite, il sait qu'il doit annoncer l'Évangile. Et d'ailleurs, que Dieu l'envoie auprès des païens. C'est d'ailleurs assez intéressant, parce que les pharisiens détestent les païens. Paul, lui aussi, doit apprendre à aimer ses ennemis. Les chrétiens vont aimer et vont prier pour lui. Et lui, à son tour, il doit apprendre à prier et à aimer ceux qu'il a détestés auparavant. Deux exemples qui nous disent la mission de l'apôtre Paul, acte 9, verset 15, où Jésus dit à Ananias, « Va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. » fera connaître qui je suis aux peuples étrangers et à leurs rois, ainsi qu'aux Israélites. Et puis en acte 22, un petit moment, c'est Paul qui raconte que Jésus lui a parlé, lui a dit, « Le Dieu de nos ancêtres t'a choisi d'avance pour te faire connaître sa volonté. Tu seras son témoin devant les hommes. » Et plus loin, il rapporte une autre parole du Seigneur, « Va, je vais t'envoyer vers les non-juifs. » Quel est le point clé de votre conversion? Vous rappelez à un moment où vous avez choisi de marcher avec le Seigneur. Quelque chose s'est passé en vous. Vous avez dit, moi je m'attachais au Seigneur. Quel était le point clé? Lorsqu'on travaille à rédiger les témoignages, on l'a fait récemment dans les formations à l'évangélisation, j'insiste toujours sur cet élément-là. Il faut dégager un espèce de thème clé, de thème central. Quel était le point central qui s'est passé finalement? En partie, on le fait parce que c'est ensuite beaucoup plus facile de raconter ce qui s'est passé. Si on raconte plein de choses un petit peu dans tous les sens, c'est un peu difficile à dire. Mais c'est aussi parce que le point clé de notre conversion est parfois une indication importante sur notre appel. Quand le Seigneur vous a appelé à lui appartenir, c'était quoi le point clé? Pour moi, un élément clé de ma conversion, c'était la question, finalement, qui est-ce que je suis? Et j'ai appris que la réponse se trouve en Dieu et seulement en Dieu. Et ce n'est pas tout à fait pour rien que le Seigneur m'a mis sur ma route une foule de gens en quête d'identité. Dans les témoignages que j'ai entendus, j'ai rencontré plein de gens qui ont été touchés par la communion fraternelle dans l'Église. Ouais, ce sont des gens qui sont appelés à travailler à l'aide sociale ou à l'unité de l'Église. Certains ont été marqués par la justice parfaite du Christ. Christ est parfait. Et souvent, ils sont devenus des évangélistes. Paul a appris qu'il était aveugle. Il est appelé à rendre la vue à d'autres aveugles. Lorsque le Seigneur appelle Paul, il ne fait pas que lui montrer qu'il s'est trompé, qu'il est pécheur. Il lui montre surtout un nouveau départ. Jésus lui montre d'entrée qu'il a une belle mission pour lui. Malgré tous ses péchés, il a une belle mission pour lui. J'aime bien cette idée du pardon du Seigneur. Le Seigneur ne veut pas des gens qui sont en train d'être broyés par la culpabilité. Des gens debout, prêts à servir leur maître. Voilà, je m'arrive à la conclusion. Un passage qui nous raconte la conversion spectaculaire d'un des plus grands persécuteurs de l'Église, c'est déjà un événement en soi important. Le Seigneur a appelle les gens les plus improbables. Et ce passage nous appelle de plusieurs manières. Il nous appelle à prier, même pour les causes perdues. Il nous appelle à nous mettre, à être nous-mêmes en garde contre nos propres aveuglements. On doit toujours se méfier de prétendre servir le Seigneur, mais simplement être à son écoute. On doit toujours se méfier d'être à l'affût des aveuglements des autres, mais pas suffisamment des siens. Ce texte nous rappelle aussi que les chrétiens tous ensemble forment le corps du Christ, et que ça nous engage. Il nous rappelle aussi que le Seigneur nous donne une mission pour agir avec lui dans ce monde, chacun à notre manière. Il a tout appelé là où on était et d'une manière différente. Il nous donne une mission dans ce monde. Je vous invite à